G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par le groupe Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Et aujourd'hui, j'anime l'émission avec Erika et Philippe. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir à toutes et à tous.
Dans cette émission, nous accueillerons deux membres éminents de l'association Quasar, Sophie et Jean-Luc. Nous parlerons également de l'actualité et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord, commençons par ton éditorial. Philippe, tu vas nous parler aujourd'hui du récent rapport d'Amnesty sur la situation des droits humains dans le monde.
Nous enquêtons cette année sur 144 pays. 2025 est une année de bascule, car le droit international n'est plus simplement bafoué, il est méprisé et ouvertement attaqué par ceux qui voudraient conquérir et accumuler territoires et ressources sans aucune limite. Poutine en Ukraine, Netanyahou en Palestine, Trump au Venezuela, puis en Iran. Ces trois dirigeants ont été les chefs de file des attaques contre le droit international, le laissant plus fragilisé et vacillant qu'il ne l'a jamais été depuis ses fondements en 1948.
Pourquoi le droit international est-il ciblé ?
Trop de pays n'ont rien mis en place pour faire cesser le génocide à Gaza, dérogeant ainsi à la décision de la Cour internationale de justice. Les transferts d'armes vers Israël n'ont pas cessé, et la France continue d'asséner qu'elle ne vend aucune arme, alors que les preuves du contraire s'enchaînent. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Autriche ou la France sanctionnent la solidarité avec la population palestinienne. La Hongrie et la Pologne ont refusé d'arrêter sur leur territoire Netanyahou, visé par un mandat de la CPI.
La France elle-même n'est pas à l'abri des pratiques autoritaires.
Les discours contre les droits humains se multiplient et ils ouvrent la voie à des politiques qui s'en inspirent ouvertement. Banalisation des discours racistes, banalisation des attaques contre l'état de droit, répression de la société civile. À un an de l'élection présidentielle, ces signaux doivent particulièrement nous alerter et les identifier, c'est déjà une façon de résister.
On entend souvent dire que le droit international est une création occidentale.
Certes, l'ordre mondial actuel est loin d'être parfait. Le système actuel est rendu inefficace par de nombreux exemples de double standard, à commencer par la différence d'application des mandats d'arrêt internationaux envers Poutine et Netanyahou. L'ordre mondial est également paralysé par le système du droit de veto au Conseil de sécurité. Mais le droit international reste le seul rempart contre la loi de la jungle.
Quel est le projet que veulent imposer ceux qui attaquent l'ordre mondial ?
Le désordre mondial dont rêvent ces prédateurs renonce à la justice raciale, de genre et climatique. Ils considèrent la société civile comme un ennemi et rejettent la solidarité internationale. Ces fondements consistent à réduire au silence la dissidence, manipuler la loi et déshumaniser toutes les personnes considérées comme différentes.
Le droit international serait-il donc moribond ?
S'il est attaqué de toutes parts, il reste malgré tout un contre-pouvoir très puissant. Les États s'emparent de ses outils juridiques et font des requêtes sur les crimes commis dans d'autres pays. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, la CPI, la Cour pénale internationale, a reçu un nombre record de 75 requêtes. 18 États soutiennent la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël. En France, 160 dossiers sont ouverts au nom de la compétence universelle, qui permet de juger les plus graves crimes dans le monde. Jamais il n'y a eu autant de chefs d'État visés par des mandats d'arrêt de la CPI, avec l'arrestation de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte, l'émission de mandats d'arrêt contre Poutine et Netanyahou. Si le droit international dérange autant les puissants, c'est parce qu'il leur demande des comptes et lutte contre leur impunité.
Et la résistance s'organise.
Oui, une poignée d'États ont décidé de faire front. L'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice pour la violation de la Convention sur le génocide. L'Espagne assume clairement et courageusement sa défense du droit international. Les 16 pays du groupe de La Haye se sont engagés en juillet 2025 à mettre fin à tous leurs transferts d'armes vers Israël.
On peut aussi compter sur la jeunesse et la société civile.
En 2025, la Gen Z a été le porte-drapeau de cette lutte pour nos droits en organisant des manifestations puissantes de résistance et de solidarité. Elle est descendue en force dans les rues, au Népal, au Bangladesh, au Maroc. Elle s'est opposée à la censure, aux inégalités. Elle a réclamé plus de justice et des avancées concrètes ont été obtenues. Saluons aussi la résistance héroïque des habitants de Minneapolis contre l'ICE l'hiver dernier. Oui, les mobilisations perturbent le cours des choses. L'heure est à la résistance.
Merci Philippe.
Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophie et Jean-Luc de l'association Quasar. Plus particulièrement, vous faites partie d'un pôle dont vous nous parlerez tout à l'heure. Comment allez-vous ?
Très bien. Heureux d'être là. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Quasar, même si elle est déjà très connue?
Alors, l'association Quasar existe à Angers. C'est l'association LGBT+, le centre gay et lesbien d'Angers. Et nous existons depuis 1993. Sophie et moi faisons partie des premiers adhérents au siècle dernier, donc. Et cette association lutte contre l'homophobie, lutte pour la préservation des droits des personnes LGBT+. Et donc, nous organisons différentes choses, dont la manifestation annuelle qui est la Marche des Fiertés, appelée également Pride, et là qui aura lieu le 30 mai à Angers. Et nous défendons différents secteurs de population, y compris les transgenres et les demandeurs d'asile, ce qui est notre propos aujourd'hui à Sophie et à moi pour le pôle droit des étrangers.
Et pourquoi Quasar ?
Alors Quasar, pour plusieurs raisons. Avant que nous arrivions à Quasar, il y a eu donc des créateurs qui, bien avant, avaient une association qui s'appelait Querelle. Mmh. Et donc qui a été qui s'est terminé, et donc le QU de Querelle a été repris, et Quasar, c'est aussi dans la constellation une des étoiles les plus éloignées du système solaire, mmh, avec un S, alors que là nous sommes Quasar avec un Z. Et donc c'était aussi cette idée que on brillait malgré la distance parfois vis-à-vis d'un certain nombre de populations diverses et variées. Donc voilà, et nous avons garder évidemment ce logo-là jusqu'alors.
D'accord.
Et donc vous êtes organisé comment à l'intérieur de cette association ?
Nous avons plusieurs pôles, qu'on appelle pôles, mais qui peuvent être des dynamiques diverses et variées. Donc l'une, qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est le pôle droit des étrangers. Nous avons aussi un pôle qui fonctionne plutôt bien, qui s'appelle un pôle jeune de 15-25 ans, avec un certain nombre d'activités qui est proposé, des activités conviviales, culturelles, des jeux ou autres. Le pôle donc de préparation de la Pride, un pôle juridique aussi qu'on essaye de maintenir. C'est vrai que c'était Stéphane Corbin qui est parti au mois de septembre qui l'assurait. Et là, il y a quelques acteurs qui se mettent sur ce pôle parce qu'il y a eu des agressions encore récemment sur Angers. Le pôle Team Trans, donc ça concerne beaucoup plus les transgenres qui viennent vers l'association pour différents motifs aussi. Et puis, il y a aussi le pôle culturel, assuré par Jean-Luc d'ailleurs, le pôle culture, afin d'assurer un certain nombre d'activités autour de la culture sur Angers et autres.
En lien avec la charte culture et solidarité de la ville d'Angers.
Voilà. Un pôle santé aussi, donc pour faire en effet des temps de formation et d'information sur la prévention santé. Voilà, et je voulais dire aussi qu'on nous avons depuis peu d'ailleurs des permanences d'accueil aussi sur Saumur et sur Cholet.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste juridiquement le droit d'asile ?
Alors, le droit d'asile, c'est lié à la convention de 51, la convention de Genève de 1951. Mmh. Et qui, en effet, concerne toutes les personnes qui subissent des sévices, des persécutions dans leur pays, et qui ne peuvent plus retourner dans leur pays parce que ça risque énormément pour eux. Et donc, dans la Convention de Genève de 51, elle permet cette protection, si on est accepté, pour un certain type de public. Ça peut être aussi bien, en effet, pour des raisons politiques, pour des raisons diverses et variées concernant des personnes, pas trop sur un type individuel en tant que tel. Par exemple, si la peine de mort, je crois, peut être couverte dans le cadre de la Convention 51, si on est condamné à mort, on ne peut plus nous renvoyer quelqu'un qui est condamné à mort dans son pays. Et autrement, ça peut concerner les minorités sociales, donc les personnes LGBT, homosexuelles, transgenres font partie de cette minorité, mais ça peut concerner d'autres minorités sociales aussi. Et ainsi que, je crois que c'est tout, on a fait le tour un petit peu. Donc ça peut être aussi, pour des femmes aussi qui quittent leur famille, enfin leur mari, etc., pour des raisons soit de violence, soit de répression. L'excision aussi.
Le mariage forcé.
Le mariage forcé. D'accord. Et l'excision aussi peuvent être une des raisons de protection dans le pays.
Et vous êtes soutenu dans vos actions par des collectivités, des entreprises, des donateurs?
Hélas, pas assez. Comme la plupart des associations, nous faisons avec les adhésions. On a eu une bonne somme d'argent de la DILCRA qui nous a permis d'embaucher un salarié qui est là pour les premiers accueils à l'association. Mais sinon, non, il n'y a pas d'accord. La municipalité, quand même, qu'il ne faut pas oublier, qui nous fournit le local au pôle Jérusalem, 15 rue de Jérusalem. Et donc, à part ça, non, nous faisons avec les adhésions et les dons.
Mmh. Est-ce que vous considérez que le droit d'asile est menacé actuellement en France?
Alors, dans la mesure où c'est un accord international, pour l'instant, on n'entend pas dire, on ne peut pas bafouer cet accord et cette convention en tout cas, et d'autant que c'est inscrit dans la Constitution française aussi, cette protection possible, en tout cas pour notre pays. C'est vrai aussi qu'il y a des accords européens qui ont... plus ou moins limiter certaines choses, comme le Dublin, enfin le Dublinage, comme on dit si bien, qui quand la personne arrive sur un territoire donné en Europe, doit normalement faire sa demande d'asile, d'autant si elle a mis ses empreintes dans son pays d'arrivée.
Mmh.
Et donc il y a un certain nombre d'accords de cet ordre-là, mais en ce qui concerne cet accord international, pour l'instant, il n'est pas bafoué. Par contre, on peut dire que dans chaque pays, même européen, il peut être restrictif par des lois, des règles, qui restent contraints ou restreint un petit peu l'avenue de demandeurs d'asile ou de migrants de manière générale.
Ça s'est vu récemment avec l'Italie, avec l'arrivée de Meloni au pouvoir. Ça s'est vu également en Hongrie, qui font partie tous les deux de la communauté européenne et qui ont restreint un maximum l'entrée à tous les migrants. Donc, dans les migrants, il y avait également des demandeurs et demandeuses d'asile qui ne pouvaient pas avoir accès à leurs droits puisqu'ils étaient bloqués aux frontières, renvoyés de toutes les manières possibles. La Grèce aussi avait fait partie de ça en renvoyant des bateaux de manière inique.
Mais l'une des grandes ressources d'une association, c'est le bénévolat. Vous êtes beaucoup de bénévoles dans l'association?
Pas assez de bénévoles.
Mais on est quand même.
Pas assez de jeunes impliqués également. Il y a beaucoup de cheveux gris, comme dans beaucoup d'associations. On le voit dans les rassemblements que nous faisons, que nous organisons pour la défense des migrants, des demandeurs d'asile. Chaque année, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de cheveux bruns, blonds, roses, bleus, dans les prides, par exemple, que dans les manifestations vraiment militantes. Et partisane. Je pense que c'est un mouvement un petit peu général.
Est-ce qu'on peut se recentrer sur une mission particulière donc, que vous avez au sein de votre pôle, dire que vous aidez à écrire, à préparer des entretiens pour les demandeurs d'asile?
Ça fait partie de nos missions au pôle droit des étrangers et étrangères. Effectivement, lorsque les personnes arrivent en tout début de leur procédure de demande d'asile, elles doivent déposer un dossier qui est à l'OFPRA. Ils passent par la SPADA. Alors, donc, il va y avoir beaucoup d'acronymes. Sophie, une petite aide? Non, pas d'aide.
Disons que c'est le lieu qui permet à toute personne en demande d'asile d'avoir une adresse, déjà une domiciliation, et de pouvoir déposer déjà un minimum de choses, de façon à recevoir aussi tous les courriers administratifs. Et voilà.
C'est le parcours obligé pour un demandeur ou une demandeuse d'asile qui arrive à Angers, par exemple. Ils doivent tout d'abord aller à la SPADA, pour déposer leur demande. Et après, ils sont convoqués à la préfecture pour enregistrer officiellement leur procédure, le démarrage de leur procédure de demande d'asile. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, à la SPADA, il faut remettre un dossier où c'est à peu près de l'état civil et également un court récit qui indique pourquoi la personne demande l'asile. Et à partir de ce moment-là, la procédure est enclenchée et ils vont être convoqués à terme auprès de l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, qui se trouve à côté de Paris.
Et en quoi votre rôle, votre soutien est-il important dans cette étape?
Alors, ça dépend de à quel niveau, enfin, quand la personne arrive. Ce qui est souhaitable, c'est dès le début. Il y en a qui savent même pas qu'ils arrivent sur le territoire français du fait des persécutions qu'ils ont reçues dans leur pays, mais qui savent pas qu'on protège les homosexuels, par exemple. Mm-hmm. Il y en a pas mal, je trouve, qui arrivent 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils ont jamais demandé l'asile à ce titre. Donc déjà, il y a ça. Il y a le fait aussi que quelquefois, il y en a quelques-uns, on verra après, mais qui peuvent être orientés par des avocats, par des associations, etc. etc. Donc le mieux, c'est quand on a la personne dès le départ. Donc déjà, on l'aide pour le récit. C'est pour ça qu'on est arrivé légèrement en retard. On a une personne qui est arrivée là, qui demande à ce qu'on l'aide pour un récit. Et puis, après cela, nous, on les prépare à l'entretien qui est envisagé pour l'OFPRA.
Alors pour le récit n'a pas besoin d'être très très fouillé. Hein. Au départ, on demande, à la limite même, pourrait se contenter de 3 phrases qui diraient « J'ai quitté mon pays parce que j'y suis persécuté en tant que homosexuel, en tant que bisexuel même. » C'est un groupe social qui est protégé par les conventions.
Ah oui, d'accord. Et il faut éviter de se contredire aussi, évidemment.
Ça, c'est après, lorsqu'on se retrouve effectivement devant l'office, l'OFPRA, il faut pas se contredire. Mais ce que l'OFPRA prend en compte, c'est uniquement les dires au moment du passage devant l'officier de protection à Paris.
D'accord.
On peut avoir fait des petites erreurs de date ou autre en faisant rapidement son petit récit à destination de l'OFPRA. Mais bon, c'est pas ce qui tient lieu de là. À partir de ce moment-là, on sait que c'est au titre de l'orientation sexuelle que la demande d'asile est faite.
Oui, d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples aussi de durcissement des conditions d'accueil en France actuellement? Parce qu'il y a quelques mesures là.
Ah oui, il y a eu des mesures qui sont tombées, une particulièrement il y a un mois, qui fait que maintenant, à partir de maintenant, les CADA et les UDA, qui sont les endroits d'hébergement pour les personnes demandeuses d'asile, ne prendront plus en charge les déplacements vers les lieux de convocation. À savoir la CNDA ou l'OFPRA, qui se trouve à Paris pour la plupart, même si maintenant c'est un petit peu décentralisé sur Nantes pour cette année-là. Et ça fait très cher pour des personnes qui touchent l'allocation de demande d'asile. C'est au grand maximum, les mois qui font 31 jours, 200 euros. Avec ça, ils doivent se nourrir, ils doivent s'habiller, ils doivent avoir les produits d'hygiène, bref, avoir un semblant de petite vie. Avec ça, ils vont devoir payer des trains. Il n'y a pas de réduction.
Excuse-moi, je te coupe. Une avant-dernière question. Est-ce que vous avez combien de dossiers, par exemple, en 2025, je ne sais pas si c'est bien de parler nombre, mais et puis combien de réussites?
On avait à peu près 95 dossiers qu'on suivait en 2025. Et là, je sais pas, on doit avoisiner nous-mêmes tous les deux, on en a 35. Et il y a 2 autres personnes aussi qui font des suivis, on va dire 50 à 60 personnes pour l'instant. Donc à mi-parcours de l'année. Donc voilà, on suit pas mal de gens, mais on les suit tout le long de la procédure dans la mesure du possible. Donc s'ils sont rejetés à l'OFPRA, ça c'est important d'en parler, ils ont un recours qui est possible. Il faut qu'ils déposent leur demande dans le mois qui suit. Ils ont un mois, enfin. Donc il faut bien qu'ils regardent le résultat sur le site.
Il faut trouver un avocat très vite et leur proposer l'aide juridictionnelle. Ils ont 15 jours après la décision négative.
Donc l'aide juridictionnelle,
on les accompagne tout au long de cette procédure-là. Il faut noter que ces derniers temps, ces derniers mois, même la dernière année, on a de plus en plus de femmes chez les demandeurs d'asile qui s'adressent à nous.
Voilà. Et comment fait-on pour vous contacter?
Alors, on peut le faire de 2 manières. On peut le faire par téléphone en nous appelant à l'association, à savoir le 02 41 88 87 49. Il y a quelqu'un qui leur fixera un rendez-vous. Et sinon, venir directement les après-midi, à partir de 14h jusqu'à 18h, au 15 rue de Jérusalem.
Merci.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
De rien. Merci de votre accueil.
Merci.
Completely, and now you're left to face the gloom, the empty room that once smelled sweetly of all the flowers you plucked and finally you knew the reason why.
D'écouter la voix veloutée de Norah Jones avec le titre Shoot the Moon. Un peu de douceur, ça fait du bien. Et vous êtes toujours avec nous sur Radio G 101.5 FM dans l'émission Droit devant. C'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
Elles s'occupent des enfants, accompagnent les aînés, concoctent les plats des restaurants, construisent les maisons, bâtissent leur vie aussi. Des personnes d'origine étrangère vivent en France depuis des années. Et pourtant, du jour au lendemain, leur vie peut basculer. Plus de travail, plus de droits, plus de sécurité. En cause, un système des titres de séjour courts, défaillants et discriminants, qui les maintient dans la précarité et l'exploitation. Cette bascule n'a rien d'un accident. Elle est le produit d'un système dysfonctionnel orchestré par l'État français. Le rapport d'Amnesty intitulé « À la merci d'un papier » révèle ces mécanismes d'État. Le 1er mai, à Angers et partout en France, les amnestiens ont porté un message fort de défense des droits des travailleurs et travailleuses étrangers.
Je vais maintenant vous raconter l'histoire d'Audrey, une jeune Française joueuse de basket. Être sur le terrain, c'est sa passion. Elle a joué plus de 10 ans dans le même club. Ce sport l'a façonnée, l'a fait grandir, lui a inculqué ses valeurs de partage et de collectif. Mais l'année dernière, tout bascule. Elle est en pleine finale d'une compétition de basket lorsqu'elle est brutalement exclue du terrain avec son équipe. La raison ? Elle n'a pas respecté les règles de la Fédération Nationale de Basket parce qu'elle jouait avec un couvre-chef sportif. Un voile qui permet aux femmes musulmanes de faire du sport tout en conservant leur liberté de religion. Ce qu'a vécu Audrey en ce jour de compétition, c'est une discrimination. Elle a été exclue du terrain à cause de son voile, à cause de sa religion. Aujourd'hui, elle est membre du collectif Basket pour Toutes, engagée pour l'inclusion et la lutte contre les discriminations dans le basket. Amnesty France soutient cette lutte. Vous trouverez une pétition sur ce sujet sur notre site.
Difficile de suivre la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran estime probable la reprise du conflit, alors que le président Trump annonce que le conflit est terminé. Ce que nous savons, c'est qu'en Iran, les autorités incitent les enfants à venir gonfler les rangs des forces armées dès l'âge de 12 ans. Armés d'un fusil AK-47, ils se voient confier la lourde responsabilité de surveiller un poste de contrôle, de rejoindre une patrouille ou d'appuyer la distribution d'équipements. Depuis le 28 février, les frappes menées par Israël et les États-Unis ont déjà fait 1900 victimes, dont 216 enfants iraniens. Amnesty International France dénonce là une grave violation du droit international et un crime de guerre. Les enfants n'ont pas leur place dans la guerre.
Au Sénégal, le 30 mars dernier a été voté un texte de loi réprimant encore plus durement les relations homosexuelles. 5 à 10 années de prison au lieu de 1 à 5 auparavant. Une véritable traque est en cours. Selon un décompte de la presse sénégalaise, au moins une centaine de personnes ont été arrêtées en quelques semaines à travers le pays. De nombreux avocats font même le choix de se tenir à distance des Sénégalais inculpés, de peur des potentielles représailles sur leur entourage.
Au Mali, le 25 avril dernier, une offensive d'une grande ampleur a été menée conjointement par les djihadistes du groupe de soutien de l'islam et des musulmans et les indépendantistes à dominante Touareg du Front de Libération de l'Azawad. Parmi les victimes, le russophile ministre de la Défense. La coalition progresse et inquiète les habitants des grandes villes du Nord. Elle appelle toutes les forces vives de la nation malienne à faire chuter le régime en place. Mais la dictature des militaires demeure déterminée à combattre et à se maintenir au pouvoir coûte que coûte avec le soutien de la Russie.
Retour en Iran, où Narges Mohammadi, la lauréate du prix Nobel de la paix 2023, est emprisonnée depuis décembre et entamée une grève de la faim. Ces 25 dernières années, elle avait été à plusieurs reprises incarcérée pour son engagement contre la peine de mort et le code vestimentaire strict imposé aux iraniennes. Ses proches ont annoncé que la militante de 54 ans a été transférée de la prison à un hôpital de la région à la suite d'une dramatique détérioration de son état de santé, marquée notamment par deux épisodes de perte totale de conscience et une crise cardiaque.
Et nous finirons ces actualités par les mots de notre présidente d'Amnesty France, Anne Savinel. À un an des prochaines élections présidentielles, elle a exprimé sa vive inquiétude sur la fragilité des droits et libertés en France face à la banalisation de propositions radicalement liberticides et à la montée des discours de haine. La seule façon de sortir de ce moment très dangereux, c'est de regarder la question des droits humains et de dire que la société civile a un rôle très important à jouer. Nos droits et nos libertés sont des fondamentaux pour vivre en société. Si nous voulons formuler nos opinions sans avoir peur, si nous voulons avoir accès à une justice indépendante, il faut empêcher la destruction de l'état de droit et éviter qu'il ne cède la place à un état de force.
Et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et c'est le temps de l'agenda militant et culturel.
Soirée aux 400 coups le mardi 19 mai à 20h, suivie d'une rencontre avec des membres de l'association des étudiants en soins infirmiers d'Angers. Au programme, le film On ira, un long métrage très maîtrisé sur le sujet délicat du suicide assisté. Sujet traité ici avec sensibilité et humour.
Toujours aux 400 coups, ciné-rencontre le mardi 26 mai à 20h avec un documentaire intitulé « Nucléaire, comment il va ruiner la France ?». C'est une séance organisée en collaboration avec Greenpeace, Justice Climatique et d'autres associations.
Le samedi 30 mai, c'est la Pride à Angers. Le mot d'ordre de cette année, protégeons notre histoire pour un avenir d'espoir. Rendez-vous place François Mitterrand à 11h pour l'ouverture du village des fiertés. La marche à travers la ville débutera vers 14h et n'oubliez